BFM Business, la France a tout pour réussir, par Stéphanie Polo.
La France a tout pour réussir. Bienvenue, nous sommes en direct depuis le CEFIA de Rennes, le salon des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. C'est le rendez-vous annuel de la filière. Alors, c'est le premier secteur industriel de France, 17 000 entreprises, près de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 460 000 emplois répartis sur tout le territoire. Alors cette 27e édition, elle se déroule dans un climat cette année un peu particulier avec la toile, avec la crise agricole en toile de fond. Comment mieux rémunérer les agriculteurs et les producteurs et tous les acteurs de la filière tout en restant compétitif? Peut-on atteindre la souveraineté alimentaire? On va parler du bio aussi. Le marché ne cesse de reculer depuis 3 ans, pénalisé par l'inflation. Mais malgré ce contexte, Biocoop résiste. Son représentant sera sur le plateau. L'innovation, c'est aussi une des clés pour surmonter les crises. Et parmi les ingrédients de demain, il y a les algues, un aliment à part entière. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une matière première agricole. Le patron de la filière sera avec nous sur ce plateau. Et puis, le salon du CEFIA s'attaque aussi aux défis du secteur, défis réglementaires, défis écologiques. On sera avec un représentant de BWT, leader européen du traitement de l'eau, qui accompagne les industriels dans leur gestion hydrique. Et on sera avec la patronne de Cellulopac, qui fabrique des emballages à base de cellulose alternative durable au plastique à usage unique. Voilà pour le programme, mais d'abord on va parler de souveraineté alimentaire.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
La souveraineté alimentaire, j'accueille mes invités. Bonjour Philippe Bernard.
Bonjour Stéphanie Colomb.
Vous êtes le directeur de l'offre chez Biocoop. Bonjour Éric Philippe.
Bonjour.
Vous êtes président de Merci les Algues et du pôle de compétitivité Valorial. On va y revenir. D'abord, un mot du marché du bio. Il ne cesse de reculer depuis 3 ans, c'est ce que je disais. Les ventes ont reculé de 4% en 2022. En 2023, ça semble stagner. Mais Biocoop a tenu bon. Le chiffre d'affaires progresse de 2,3% en 2023, 1,5 milliard d'euros. Comment Biocoop a surmonté la crise?
Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, le marché de la bio a fini de reculer. Je pense qu'on est arrivé sur un plancher. Biocoop, effectivement, a une meilleure trajectoire, notamment en 2023, par rapport au marché de la bio. En fait, on a travaillé sur deux axes essentiels. Le premier, et c'était votre propos introductif, sur le sujet de l'accessibilité prix. Donc, on a notamment développé une gamme de 150 produits en prix engagé, donc sur des produits indispensables. Nous avons aussi travaillé le prix avec sur le fruits et légumes. Donc, aujourd'hui, le prix des fruits et légumes chez Biocoop est aussi compétitif, voire plus compétitif qu'en grande distribution, par exemple. Et puis, on travaille aussi sur le sujet du mode de consommation. Donc, on incite nos clients à acheter en vrac. En vrai, pour le zéro déchet, mais également, c'est plus économique.
C'est aussi votre marque de fabrique, le vrac. Alors, il y a vos concurrents Naturalia qui ont ouvert des rayons non bio. Ça a été leur solution pour sortir de, enfin, pour essayer de surmonter la crise. Chez Biocoop, vous fermez la porte à l'ouverture de rayons non bio. Comment il fonctionne le modèle Biocoop?
Alors, donc, Biocoop a été créé en 1986. Sur un principe de base qui est être un outil au service du développement de l'agriculture biologique. En fait, nous sommes des magasins militants. C'est pour ça qu'on reste focalisé sur les produits bio et uniquement les produits bio. Donc, nous sommes une coopérative de magasins, 743 magasins, qui ont eux-mêmes des formats de type coopérative. Et on a une spécificité, c'est que dans la gouvernance de Biocoop, vous avez des représentants des magasins, des représentants des salariés, des représentants des consommateurs et des représentants des paysans et des paysannes
et
qui sont associés à Biocoop.
Voilà. Donc là, finalement, vous représentez la filière en tant que telle. Du coup, je vous pose cette question. Comment rester compétitif? Comment bien rémunérer tout le monde, aussi bien en passant par les agriculteurs, en passant par les salariés des magasins, en passant par finalement tous les acteurs de la filière? Comment vous faites?
Alors, le discours policier dit il faut travailler la répartition de la valeur. Et donc chez Biocoop, non seulement on le dit, mais on le fait. Et la preuve en est, c'est que 25% du chiffre d'affaires réalisé par Biocoop est fait en commerce équitable. C'est-à-dire que donc il y a une labellisation sur l'activité que nous pouvons avoir. Et donc justement sur notre niveau de rémunération avec les producteurs. Mais ceci, c'est aussi un travail de longue haleine. Ça fait 38 ans que Biocoop existe. 38 ans que Biocoop travaille avec des producteurs. Donc il y a aussi des approches sur le long terme. Donc ce qui évite aussi les phénomènes de spéculation. Et puis c'est comment on arrive à progresser ensemble pour trouver justement un bon équilibre entre un prix accessible pour le consommateur, sachant que l'alimentation a une valeur, et une rémunération correcte pour les producteurs, et entre deux, notamment des salariés, que ce soit les salariés des magasins ou du siège.
Et c'est ça, en fait, finalement, c'est ça, vos négociations commerciales à vous. Vous êtes acteur de tout ça. Est-ce que vous avez un point de vue sur la rémunération des producteurs? On a entendu le chef de l'État parler de prix plancher. Est-ce qu'il y a un risque que les prix... Est-ce que déjà, c'est une solution, selon vous? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces prix planchers deviennent des prix plafonds, finalement?
Alors, nous, on ne travaille pas tout à fait comme ça, puisqu'on travaille dans le cadre du commerce équitable. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait avec nos partenaires.
En amont.
En amont. Donc il y a un process en fait, et qui établit que le prix doit notamment couvrir un coût de production, un revenu et une capacité d'investissement pour celui qui produit.
Et ça a été déterminé par le producteur en amont.
Ouais. Ça a été
collégialement.
Collégialement. D'accord. Ça a été défini collégialement, et c'est ce qui donne une résilience donc à cette filière.
Bien sûr. Je parlais du gouvernement il y a un instant. Il y a un nouveau plan de soutien d'aide à l'agriculture biologique qui a été décidé, avec un dispositif d'aide de 90 millions d'euros pour cette année. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant aujourd'hui?
Non, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce que, pour vous donner un ordre d'idée, donc ces 90 millions permettent d'accompagner 15% à peu près des fermes, alors qu'aujourd'hui on a à peu près 30% de... La profession estime à 30% la part de ferme à accompagner. Et là, c'est un accompagnement temporaire. C'est-à-dire, faut pouvoir traverser la tempête en attendant que voilà, on ait des jours meilleurs, ce qui commence à arriver. Mais c'est pas suffisant. Et là, il y a vraiment des enjeux. Il y a des producteurs qui se sont engagés. Il y a des familles qui sont engagées derrière. Il y a des femmes et des enfants aussi. Donc il faut pouvoir les accompagner, et puis surtout il faut aussi pouvoir réinformer correctement le citoyen sur le rôle de l'agriculture biologique, tant sur l'avenir de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire. C'est un rôle aussi social, c'est un rôle aussi pour la santé publique. L'agriculture biologique, ses bienfaits sont aujourd'hui démontrés scientifiquement, et c'est aussi, on parle beaucoup de biodiversité, de carbone, etc. L'agriculture biologique, en tout cas, est une solution forte.
Vous avez dit que vous sentez que ça allait un peu mieux. Est-ce que vous sentez là, ça sera la dernière question, est-ce que vous sentez une reprise un peu des sur le marché du bio en ce début d'année 2024?
Alors, on ne dispose pas encore des chiffres de l'ensemble
du marché. Non, bien sûr, mais
chez Biocoop, chez Biocoop, là, on fait un début d'année qui est très, très encourageant, puisqu'on fait on est à plus 7 en évolution de chiffre d'affaires. Ça s'est même accéléré sur ces dernières semaines. Et ce qui est aussi très, très intéressant, c'est que ce sont les volumes aussi qui sont en progression, à peu près du même ordre d'idée, parce que c'est le vrai marqueur.
Bien sûr. Éric Philippe, vous êtes le coprésident de Merci les Algues et le président de Valorial. D'abord, une réaction sur Biocoop, sur ce modèle Biocoop. Est-ce que pour vous, ça fait partie d'une des solutions pour atteindre justement cette souveraineté alimentaire?
C'est clairement une des solutions, parce que derrière, le Biocoop a aidé aussi toute l'agriculture à changer ses pratiques, et ses solutions. Aller chercher des meilleures pratiques pour les agriculteurs et de répondre à des attentes des agriculteurs qui sont sensibles, qui sont prêts à mettre un peu de moyens dans l'alimentation. Et quand on voit la part du budget de l'alimentaire dans les dépenses des consommateurs, je pense que le bio a une place vraiment très 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 claire pour beaucoup de consommateurs. Ouais. Et alors, une solution technique aussi.
Bien sûr. On va en parler. Emmanuel Macron a porté l'agriculture au rang d'intérêt général majeur de la nation. Est-ce que ça va dans le bon sens? Quel regard vous portez, vous, Éric Philippe, sur la crise agricole? que l'on traverse.
Moi, je comprends tout à fait. Elle aurait même pu arriver plus tôt, cette crise agricole. Parce que on n'est quand même pas dans un pays low cost. On demande à nos agriculteurs d'améliorer leurs pratiques au quotidien. Et il y a ceux qui font le bio et c'est très bien. Et puis il y a ceux qui ne font pas dans le bio, mais qui sont en train de travailler pour réduire leurs intrants chimiques. Et ceux-là aussi font un gros travail. Et sur le marché aujourd'hui, ils ont une concurrence sur les prix qui est avec une frontière très ouverte. La traçabilité, la visibilité de leurs produits n'est pas toujours bien faite également. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat d'ailleurs actuellement pour mieux tracer les produits. Et donc aujourd'hui, c'est une équation qui est impossible pour les agriculteurs. Et donc là, clairement, c'est normal qu'il y ait cette réaction. Et il faut vraiment que l'État prenne en compte que la nourriture, c'est pas un bien comme les autres. Je sais pas s'il faut le laisser même à l'OMC ou faut pas que ça soit dans les mains des traders. C'est quand même un bien qui est important et qui doit être là. Et la loi Egalim, par exemple, c'est un peu comme on disait sur la construction du prix, je ne sais pas si c'est des planchers ou des comme ils veulent faire. Ouais. La loi Egalim, c'est déjà normalement le fait de construire un prix de revient filière par filière, parce que c'est complexe, hein, l'agriculteur, faire un prix plancher partout, ça sera compliqué. Mais au moins faire la loi Egalim, construire le prix de revient et surtout la faire appliquer et contrôler.
C'est ça. On en a beaucoup parlé, effectivement, des contrôles des centrales d'achat européennes.
On peut sauvegarder.
Effectivement.
Parce que juste pour ajouter, cette transition agricole, à moyen et à long terme, c'est la solution pour continuer même à avoir des rendements, etc.
Bien sûr.
Il y a, conjoncturellement, on est en ce moment dans une période difficile avec des importations non contrôlées, etc. Mais on sait qu'à terme, il faut changer nos pratiques, ne serait-ce que pour garder des sols qui soient pratiques, qui puissent continuer à produire, garder nos rendements,
etc. Effectivement. Alors justement, pour produire, on va parler des algues. Vous êtes le coprésident de Merci les algues. Les algues, c'est un aliment, c'est à la mode, c'est tendance. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une matière première agricole. Ouais. Comment ça fonctionne, cette filière? Elle vient d'où? Comment ça fonctionne?
Déjà, c'est pas une filière toute nouvelle. Hein. Elle est dans l'histoire. Les algues, c'était des amendements pour les terres. D'ailleurs, beaucoup de producteurs bio utilisent des algues.
Hein. Avec le lithotam, effectivement.
C'était des amendements pour les terres. On donnait les côtiers donnaient ça à manger à leurs animaux. Donc, c'était déjà. Il y a eu une industrie très forte en France pour faire du savon, pour faire du verre, pour faire de l'iode. Donc, il y a eu déjà beaucoup une grosse industrie. Maintenant, derrière, quand l'agrochimie est arrivée, on a un peu laissé tout ça de côté. On est parti sur le...
Dans les années 50.
Dans les années 50, on est un peu parti sur l'agrochimie et tous ces produits un peu naturels, on les redécouvre aujourd'hui. Alors maintenant, il y a un enjeu. Donc cette filière-là, elle est dans plusieurs domaines. On peut aller chercher des intrants alimentaires, hein, alginates, etc. Mais on la voit beaucoup aussi pour l'agriculture, parce que les algues, c'est bon pour les plantes, avec des biostimulants. On peut aider les plantes à se défendre et mettre moins de pesticides. C'est bon pour les animaux. Il y a beaucoup de produits à base d'algues qui servent à l'immunité des animaux pour utiliser moins d'antibiotiques.
C'est ça. Donc ça, en fait, ça se substitue pas aux pesticides ou aux antibiotiques, mais ça permet de renforcer les produits comme un complément alimentaire, en quelque sorte.
Ça permet aux plantes, aux animaux, mais même à nous quand on mange des algues, d'avoir une meilleure immunité, une meilleure défense. Et quand on a une meilleure immunité, une meilleure défense, on est moins obligé de mettre des pesticides ou des antibiotiques ou des médicaments. Donc c'est un peu cette logique-là qui est utile dans l'agriculture.
Et sur cette filière-là des algues, est-ce que la France a un atout majeur à jouer?
Alors, je vais vous dire un chiffre. Depuis les années 50, aujourd'hui, il y a 35 millions de tonnes d'algues produites dans le monde. C'est énorme. 97% en Asie. On n'a pas du tout pris le train de l'algue. Or, la France est le deuxième domaine maritime au monde.
On a un avantage sur
les papiers. Donc le potentiel, il est énorme. Et donc, à partir du moment où les terres arables, on a plutôt tendance à les voir disparaître, il est clair qu'aller chercher dans la mer des matières premières pour tout un tas d'utilisations agricoles, alimentaires, biomatériaux, il y a même de la peinture qu'on peut faire, enfin, il y a beaucoup d'utilisations, ça va être une ressource indispensable. Et en plus, on produit des algues sans engrais, sans pesticides, sans eau douce, et ça capte du carbone.
Alors, je ne veux pas terminer cette interview sans parler de Valorial, un pôle de compétitivité du Grand Ouest. Vous fédérez 360 industriels, une communauté de 4000 innovateurs autour de l'aliment intelligent. L'innovation en tant que crise, c'est primordial, c'est ce qu'il faut sauver.
L'aliment, c'est ce qu'il faut sauver, parce que c'est notre... indépendance alimentaire. On a aujourd'hui construit des filières. On est quand même important comme un pays agricole. On a baissé ces dernières années. C'est pour ça que je dis que c'est arrivé un petit peu tard. Mais on a quand même construit un parc très important de filières. Il faut savoir que si ces filières sont mises à mal et qu'elles doivent disparaître, d'abord c'est des emplois, c'est de la structuration.
Bien sûr.
Et une fois que vous avez des agriculteurs qui sont partis ou des outils industriels qui n'existent plus, c'est comme la braise. Si vous soufflez dessus, ça ne redémarre pas du jour au lendemain. Et on finit comme le textile, la sidérurgie, et ça ne redémarre pas. Donc il faut absolument éviter de rentrer dans cette pente qui est de voir disparaître nos filières où on a, vous avez ici une concentration de savoir-faire de gens qui sont prêts à innover pour utiliser moins d'eau, pour utiliser moins d'énergie, pour produire plus propre, plus durable.
On va en parler. Ouais.
Donc on a quand même on a des atouts énormes.
Ouais. Et il faut jouer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Éric Philippe, co-président de Merci les Algues et président de Valorial, et Philippe Bernard, directeur de l'offre de Biocoop. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM Business sur le CEFIA de Rennes. Après la souveraineté alimentaire, place désormais à un autre défi de ce secteur, de l'agroalimentaire. Il y en a plusieurs. On va en parler dans un instant.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
La France a tout pour réussir depuis le CEFIA. Deuxième partie consacrée aux défis du secteur agroalimentaire. Parmi ces défis, il y a la gestion de l'eau. On va en parler avec vous, Michaël Tourneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marché et grand compte à la direction commerciale industrie de BWT. Vous allez nous dire comment vous aidez les industriels à augmenter leur efficacité hydrique. Mais d'abord, un autre enjeu, celui des emballages. Bonjour Audrey Mas.
Bonjour.
Vous êtes directrice commerciale de Cellule Opaque. Alors, vous fabriquez des emballages à partir de cellulose, comme des supports de gobelets ou encore des barquettes alimentaires. Alors d'abord, c'est quoi la cellulose ?
Alors la cellulose, c'est un matériau qui est malgré tout déjà beaucoup dans nos maisons, puisque c'est un matériau qui est utilisé pour les boîtes à œufs notamment. En fait, la cellulose, c'est un composant du bois, un composant naturel du bois qui lui apporte sa rigidité. Et donc ça nous est revendu sous forme de papier, de pâte vierge. Ou alors on le réutilise aussi, enfin on utilise du carton recyclé pour fabriquer nos emballages.
D'accord.
Donc ces deux matériaux peuvent être mixés ou séparés, utilisés de manière séparée. La pâte vierge est utilisée pour faire des emballages alimentaires essentiellement, donc des barquettes, vous l'avez dit. Et la différence avec les boîtes à œufs, justement, c'est que nous, on utilise cette cellulose pour le contact alimentaire direct.
Ah oui.
Et on fait des emballages rigides, qu'on vient presser et mouler, comme des gaufres en fait, et qui sont extrêmement rigides, résistants à l'humidité, on va dire, partiellement, puisqu'on verra après qu'on apporte aussi de la rigidité autrement. Ils sont surtout esthétiques aussi, propres, lisses, et c'est ce qui plaît aussi à nos clients.
Alors, vous proposez une alternative au plastique à usage unique. Est-ce que vous avez été assaillie par la demande des industriels après le passage de la loi anti-gaspillage et anti, évidemment, plastique à usage unique?
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs types de clients qui sont venus à nous. Bien sûr, il y a la partie agriculture, avec des barquettes pour des avocats, pour des nectarines, ce genre de produits qui sont relativement simples à réaliser pour nous. Mais au-delà de ça, effectivement, de gros industriels de l'agroalimentaire sont venus nous chercher pour qu'on puisse développer avec eux et éco-concevoir leur emballage de demain. Donc c'est un vrai défi.
C'est ça. Parce ils veulent quoi, du plus léger, du moins cher, du plus.
Alors le prix, ça reste effectivement toujours un point clé. Hein, c'est, mais je dirais que c'est pas ce qu'ils viennent chercher en premier chez nous. Ce qu'ils viennent chercher, c'est un emballage recyclable, bien perçu par le consommateur, qui réponde aux législations, vous l'avez dit, de demain. C'est en ça qu'on peut vraiment les accompagner et faire. Un peu un laboratoire, on va dire, d'éco-conception pour eux, pour aller, bien sûr, à l'industrialisation, parce que c'est notre but ultime.
Bah c'est ça. Et là, à l'heure actuelle, vous vous êtes positionné sur du sur-mesure. Pourquoi le sur-mesure ? Pourquoi pas faire du standard, de l'emballage standard ?
C'est là qu'on va avoir la plus forte valeur ajoutée, finalement, parce qu'on va, comme je l'ai dit, accompagner l'industriel dans le développement de son emballage. On va essayer de limiter l'impact sur ses lignes de production. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il utilise un emballage plastique, une barquette qui passe sur des lignes automatisées. Et il faut que nous on puisse s'adapter à ces contraintes là. Donc ça, c'est des contraintes, je dirais, techniques, mécaniques, de passage sur ligne. Mais effectivement aussi, s'adapter à des contraintes de durée de vie dans les rayons, aussi très de plus en plus importantes.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas non plus 100% se passer de plastique chez nous. On a un liner, on a passé un liner, un dépôt de plastique, une fine couche de plastique qu'on met dans la barquette pour lui apporter de l'étanchéité. On diminue drastiquement quand même la quantité de plastique puisque on utilise 10 à 15% de plastique maximum. Et c'est en ça que, voilà, qu'on va pouvoir l'accompagner.
Et alors, vous avez, pour répondre à la demande, investi 5 millions d'euros dans une deuxième usine près de Toulouse.
Oui.
Est-ce que vous avez très rapidement eu des freins, rencontré des freins au développement de cette deuxième usine?
Ça a plutôt été très bien accueilli, je dirais, au niveau global. Il n'y a pas de frein particulier, au contraire, on a été bien accompagné. On a souhaité quand même malgré tout répondre à des normes, je dirais, exigeantes en termes d'environnement. On a des panneaux solaires.
Et des normes aussi liées à la gestion de l'eau.
Alors l'eau, effectivement, chez nous, elle est systématiquement recyclée dans le circuit parce qu'on en utilise beaucoup. Donc on recycle l'eau pour en consommer le moins possible.
Parce que c'est un défi évidemment très important de la filière agroalimentaire. Michaël Tourneau, on va en parler avec vous. Chez BWT, Best Water Technology, le leader européen du traitement de l'eau. Comment la filière s'organise depuis la parution? Il y a eu un décret le 25 janvier sur la réutilisation des eaux usées. Comment ça s'organise? Ça a eu l'effet d'une bombe dans le milieu?
Effectivement, et il faut, je pense, dans un premier temps, poser le contexte, notamment en France, hein, par rapport à nos voisins européens. C'est que la France, jusqu'à aujourd'hui, et dans l'industrie agroalimentaire, on n'avait pas le droit de réutiliser une eau sortie de station d'épuration. Parce que c'est une étape de traitement dans une usine agroalimentaire. Elle est transformée, hein, l'eau dans une usine pour faire du chaud, pour faire du froid, pour conserver. Et elle est mise aux normes avant rejet. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la parution de ce décret, en fait, les industriels agroalimentaires n'avaient pas l'opportunité de réutiliser cette eau. Et ce que vous venez d'évoquer, effectivement, est extrêmement important. Il y a un vrai gap ou un passage, en tout cas aujourd'hui, à une nouvelle étape. Ce décret a le mérite, en fait, d'officialiser l'ensemble des annonces qui ont été faites l'année dernière.
Alors justement, comment vous les accompagnez, ces industriels, dans le traitement des eaux usées de leurs usines?
Alors l'idée de les accompagner, en fait, c'est sur l'ensemble du cycle de l'eau. Parce que ce qui est important pour un industriel, même si aujourd'hui on emploie le terme recycler, comme vous venez de le faire, ou réutiliser, l'industriel doit garder une démarche progressive et méthodique dans ses économies d'eau. Et c'est là notre mission, BWT, de les accompagner. Il y a trois R, en fait, qui sont identifiés, hein, qui donnent une méthodologie, comme je le disais, qui sont réduire, réemployer et recycler.
C'est ça.
Et à chacune de ces étapes, il faut réduire ses consommations en eau. Et c'est là notre rôle auprès des industriels pour les emmener vers ces économies d'eau, en fait.
Donc du diagnostic jusqu'à la solution.
Exactement.
Combien de temps vous mettez pour de la première étape jusqu'à la dernière? Combien de temps ça met? Si une usine veut se mettre, par exemple, aux normes aujourd'hui, ça met combien de temps?
C'est une question extrêmement pertinente et qui explique le choix d'être méthodologique dans cette approche. C'est que le réduire peut aller très vite, également en termes d'investissement et de mise en place. Et au plus on va avancer dans la démarche, au plus, je dirais, la démarche sera importante, avec des coûts donc importants associés. Aujourd'hui, avec la sortie de ce décret, les industriels se préparent à la mise en place de solutions industrielles à leur échelle, je dirais, sous un horizon de 1 à 2 ans. Et donc là, on est sur la troisième étape, précisément.
Eh ben, on va suivre ça de près, en tout cas, c'est sûr. Merci beaucoup, Michaël Tourneau, responsable secteur agroalimentaire chez BWT. Merci beaucoup, Audrey Mas. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale de Cellule Opaque. On termine cette émission avec Sébastien Gillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la division des salons chez JL Event. C'est vous qui organisez ce CEFIA, finalement. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette édition, la 27e? Il y a de l'engouement
déjà.
Vous le sentez?
Écoutez, on est dedans, c'est bon, c'est parti, c'est lancé depuis une demi-journée, c'est le plus dur est fait. Maintenant, c'est d'apprécier, en plus ça se passe bien, on voit bien une nouvelle fois la densité du visiteur qui est présente, on voit bien les enjeux, vous en avez parlé avec vos invités. On a pas mal de temps forts qui vont nous accompagner sur ces trois jours-là, on va avoir les jeunes aussi jeudi, hein. Vous savez que c'est un enjeu important pour l'agroalimentaire et même l'industrie, de faire revenir les jeunes à revenir dans ces métiers-là. Donc on a un vrai temps fort tout le jeudi avec eux, on va accueillir 2000 jeunes avec les différents métiers. Donc pendant là, trois jours, on va de nouveau vivre avec l'agro, avec les enjeux, avec le premier secteur industriel français, c'est quand même aussi important de le dire.
Absolument.
C'est plus de 500 000 salariés, donc il y a plein d'enjeux qui se déroulent sur CEFIA, mais on est bien en Bretagne. Il n'y a pas que la montagne qui nous gagne, il y a aussi la Bretagne.
Et est-ce que vous sentez plus d'engouement que d'habitude sur ce salon, eu égard à la crise agricole qu'on a connue, eu égard à toutes ces problématiques de souveraineté alimentaire dont on a parlé?
On a ces enjeux, ces discussions qui sont bien sûr dans les allées, à travers les trophées innovation, à travers les différentes thématiques de conférences. Rennes et le CEFIA est toujours quelque chose d'un peu atypique. Le fait qu'on soit en province, le fait qu'on soit dans le berceau agroalimentaire, donc il y a toujours ce côté un peu famille, ce côté grande famille, parce que sensiblement, vous avez 90% des exposants qui sont sensiblement les mêmes, et on a 70% du visitorat qui visite régulièrement le CEFIA. Donc il y a quelque chose qui s'est créé, mais il y a des complicités avec les exposants visiteurs qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres manifestations. On va retrouver une nouvelle fois ce qu'on a au CEFIA de manière annuelle, tous les ans. Peut-être la seule année où on l'a fait, on n'a pas retrouvé ça, c'est sortie de Covid, où il a fallu que la machine des salons se relance.
Bien sûr, bien sûr.
Et en tout cas, au CEFIA, on retrouve...
Et cette année, une invitée de marque aussi, hein?
Tout à fait.
Dans deux jours, Agnès Pannier-Runacher.
Exactement, la ministre qui viendra donc faire une visite officielle sur le salon jeudi, c'est une première. Depuis 27 ans, vous l'avez dit, on n'a jamais eu un ministre ou une ministre qui est venue inaugurer ou une visite officielle. Je pense que c'est une marque de reconnaissance, avant tout pour le salon, mais surtout pour les industriels agroalimentaires. Une nouvelle fois, il y a les enjeux, il y a les sujets qu'elle maîtrise à travers ces deux passations sur les différents ministères qu'elle a eus, hein, transition écologique, rappelons, et aujourd'hui ministère délégué à l'agriculture. Donc on est fiers de la voir, fiers de passer un moment avec elle, et en plus elle va conclure une conférence sur les ingrédients, donc le mardi midi, avec un temps fort, une prise de parole. Donc voilà, donc ça sera le point d'orgue, si j'ose dire, du CEFIA.
Du salon. Prochain événement d'ampleur, c'est Global Industrie, dans 2 semaines à Villepinte.
Exactement, dans 15 jours on y sera, pareil. Alors d'ampleur, parce que là on va être sur l'industrie avec un grand I, donc ça va être beaucoup plus généralisé, pas un salon vertical, avec 2300 exposants, avec bien sûr de la politique.
Ouais.
Des enjeux qu'on retrouve aussi au CEFIA, les jeunes, la décarbonation, ce sont aussi les enjeux qu'on a dans l'industrie. Mais on va aller un peu plus loin, on va aller sur d'autres filières. Donc on est déjà en préparation. Pour être transparent avec vous, le salon commence déjà à se monter alors qu'il y aura
oui,
15 jours.
Forcément, voilà. Forcément. Bon, rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Sébastien Gillet, directeur de la division salon de JL Event. La France à tour pour réussir depuis le CEFIA de Rennes, c'est fini. Mais vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site de BFM Business, en podcast également. Et puis on se retrouve évidemment très vite sur l'antenne de BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.